Jésus, on veut te remercier ce matin pour ta présence. On veut te dire à quel point qu'on t'aime. Merci parce que tu te manifestes dans tout ce qu'on fait. Si on le fait de bon cœur. Seigneur, on veut dire qu'on est amoureux de toi ce matin. Puis viens inspirer tout ce qui va sortir de ma bouche ce matin. J'ai demandé à Andrew de rester quelques secondes. Parce que je veux qu'on garde un cœur attentif sur Jésus ce matin. Juste avant qu'il nous conduise un petit peu plus dans justement cette partie-là de ce chant, j'ai vraiment à cœur de lire ce verset. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3, ça dit « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Avec un cœur qui médite sur ce beau chapitre de la Bible, j'aimerais ça que juste Andrew conduise 2-3 secondes.
Combien nous t'aimes.
Chantons-le ensemble.
Tu es celui que nos cœurs adorent. Jésus nous t'aime. Combien nous t'aimes. Tu es celui que nos cœurs.
Chantez-lui ce matin.
Combien nous t'aimons. Tu es celui que nos cœurs adorent. Tu es celui que nos cœurs adorent. Tu es celui.
Beau spontané.
Merci, Andrew. Il y en a ici qui n'ont rien compris. C'est quoi qu'il fait, le pasteur? Il est en train de couper la présence de Dieu. Il a cassé mon moment intime avec Jésus. Le problème, c'est que des fois, ce son-là, qui résonne, qui est fort, qui casse tout, qui fait en sorte qu'on a envie de faire ça, c'est le son de notre vie. C'est ce que la Bible nous dit. Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit, qui casse la baraque. J'ai eu chaud. Je me suis donné! J'ai tout donné, Jésus! Il y a beau avoir des beaux sons mélodiques, mais si je m'attarde sur la cymbale qui résonne, ça prend tout le dessus. Est-ce que ma vie ressemble à ça? C'est une question qu'on peut se poser ce matin. Est-ce que ta vie ressemble à ça? Est-ce que ta vie ressemble à cette cymbale? Et Dieu fait-il cela lorsque tu marches jour après jour? Si Dieu fait ça, c'est pas nécessairement parce que tes actions sont mauvaises en passant. Mais parce que Dieu entend le son du cœur. Dieu ne s'attarde pas nécessairement sur tes actions. Il va te demander de faire des bonnes actions, bien sûr. Mais tes bonnes actions doivent découler de ce qui passe, de ce qui se passe dans ton cœur. Dieu, lui, le son qu'il entend, c'est le son qui est dans ton cœur que peu peuvent entendre. Dans 1 Corinthiens 13, on différencie nos actions de notre cœur. 1 Corinthiens 13 nous enseigne que Dieu voit un cœur rempli d'amour ou un cœur sans amour. Est-ce que tu as un cœur mélodique ce matin ou un cœur qui retentit tel qu'une, un cœur qui retentit tel qu'une cymbale peut retentir? C'est important de se poser la question parce que le cœur l'emporte tout le temps. Ce qui est caché n'est jamais, mais jamais caché aux yeux de Dieu. En fait, c'est la seule chose que Dieu voit. C'est réellement la seule chose que Dieu voit. On sert un Dieu qui est esprit. Les gens peuvent penser que t'es beau. Les gens peuvent penser que t'es belle parce que t'es beau et que t'es belle. Mais est-ce que t'es beau à l'intérieur ce matin? C'est la question que je veux nous demander, je veux qu'on se pose. C'est une question importante. Si c'était pas important, la Bible ne mettrait pas l'emphase là-dessus. Tes actions peuvent être bonnes, mais est-ce que le motif est bon et le cœur est beau et rempli d'amour? Ton cœur est appelé à être rempli de l'amour de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous encourage à avoir une communion avec l'Esprit de Dieu en passant. On parle souvent du Saint-Esprit, puis on va toujours parler du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui vient nous sanctifier, nous rendre à l'image de Jésus, et Jésus est amour. Et donc, l'Esprit est appelé à être tellement important pour nous qu'on est appelé à apprendre à avoir une relation avec l'Esprit de Dieu. Et si on a une relation avec l'Esprit de Dieu, mais ce qui va se passer, c'est que notre cœur va commencer à être sanctifié, purifié, et on va être capable de voir Dieu agir dans nos vies. La parole dit ceci: heureux celui qui a le cœur pur, car il verra Dieu. Si tu ne vois pas assez Dieu dans tes situations, pose-toi la question ce matin: est-ce que mon cœur est pur? Est-ce que mon cœur est beau? S'il n'est pas beau, c'est pas un problème pour Dieu. Tu ne lui fais pas peur. Dieu se réjouit de s'approcher de toi. C'est lui qui va s'occuper de toi si tu lui laisses la place. Laissons-lui la place ce matin. Lisons Philippiens 2, 1 à 4. Ça dit: s'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'Esprit avec l'Esprit de Dieu, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. On est appelé à être unis dans cette pensée ce matin. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec une humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. C'est ça l'amour en passant. C'est, Ces courts passages nous résument comment on devrait vivre. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde à ceux des autres. L'amour, répète après moi, l'amour se donne tout le temps. Est-ce que je me donne? Si je me donne, je suis dans l'amour. Si je pense à moi, un peu moins. On a parlé de rêves récemment et de nos destinées, puis je pense que c'est vraiment une saison que Dieu nous amène à vivre ensemble. Aujourd'hui, je veux mettre en évidence notre plus grande destinée qui alignera nos micro-destinées, nos rêves et les rendra possibles. Ton appel que Dieu t'a donné, tu es appelé à entrer dedans. Le rêve que Dieu t'a donné, tu es appelé à l'accomplir. Ta destinée, Dieu l'a prévue pour ta vie afin qu'elle puisse s'accomplir. Mais la seule place que tu vas être capable de l'accomplir réellement et de voir les résultats du ciel, c'est lorsque tu es près du cœur de Dieu, lorsque tu es en communion avec l'Esprit-Saint. Donc aujourd'hui, je veux nous rappeler notre mandat ultime. Oui, tu as le mandat d'accomplir tel truc, puis tu as la destinée qui reflète tel désir dans ton cœur. Puis oui, Dieu a placé des rêves dans ta vie qu'il va accomplir, qu'il tient à accomplir, et Dieu va le faire dans sa saison. La semaine passée, Élisabeth te l'a rappelé. Vis sur cette promesse. Mais n'oublie pas ton mandat ultime. Notre mandat ultime, ton mandat ultime, le plus grand appel que tu as, le plus grand appel que je peux avoir, on va le retrouver dans Matthieu 22, 37 à 40. Ce que vous voulez lire, c'est notre mandat ce matin. On va lire notre mandat ce matin ensemble. En Matthieu 22, 37, 40, ça dit « Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. De ces deux commandements-là dépendent tout l'ordre de ta vie et toutes les prophéties que le ciel a déclarées sur toi. Ça dit, ça, de cet ordre-là dépendent toute la loi et les prophètes. Les prophéties que Dieu a déclarées sur ta vie. Tu vas réellement rentrer à 100% dedans lorsque tu opères dans l'amour. Lorsque tu aimes ton Dieu et lorsque tu aimes ton prochain tel que tu peux t'aimer. On va lire la suite, c'est trop bon. Je pourrais accomplir tellement de choses que Dieu m'appelle concrètement à accomplir. La Bible qui dit, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. OK, celle-là, il y a besoin de rentrer là, en nous. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Ça a besoin de réellement prendre place, prendre une place concrète. Ça a besoin de devenir vérité dans notre cœur. Répétez après moi. Je pourrais accomplir tellement de choses que Dieu m'appelle concrètement à accomplir. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je prêche et que je n'ai pas réellement été touché par l'amour de Dieu, je suis rien. En bon québécois, c'est pas « je ne suis rien », c'est « je suis rien ». Si je prêche ce matin, aujourd'hui même, et que je n'ai pas été touché par l'amour de Dieu, je ne suis rien. C'est ce que la Bible me dit. J'aurais beau parler de l'amour de Dieu. J'aurais beau amener des milliers au Seigneur. Commençons par des centaines. Si je n'ai pas l'amour, même si je me présente à Dieu, puis je dis, regarde tout ce que j'ai fait. Ouais, mais est-ce que tu me connaissais intimement? Dieu cherche et désire te connaître dans l'intimité. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. God loves you. C'est encore vrai. Peu importe ce que tu as vécu hier, peu importe ce que tu as vécu un matin, peu importe ce que tu vas vivre demain, Dieu t'aime. Puis nous, des fois, on se cache. Puis on s'enfuit. Puis on refuse son amour. Arrête de te cacher. Arrête de t'enfuir. Dieu t'aime. Et si tu reçois son amour, tu vas être capable de lui en donner. Et c'est en recevant que tu vas lui donner toute ton affection. Et c'est comme ça que tu vas voir le plan de Dieu se réaliser dans ta vie. Ton premier mandat, c'est d'aimer Dieu et d'aimer ton prochain comme toi-même. Ça ne dit pas que ma prêche ou mon action vaut rien en passant. Mais plutôt que je suis rien. C'est intéressant. Tu prêches pas. Ça dit pas, hey, si tu prêches, si tu fais des belles actions, mais que t'as pas l'amour, ça vaut rien. Ça dit pas ça. Ça dit que moi, je vaux rien. C'est intéressant. On va regarder pourquoi. Parce que l'amour, la Bible nous dit que c'est une personne. L'amour est une personne. Sans Jésus, sans l'amour, Jésus manifesté, sans Jésus, ben, je ne suis rien. Je peux faire bien des bonnes actions, mais sans Jésus qui fait ses actions avec moi, je ne suis rien. On connaît tous on pourrait tous mettre un nom. Il y a plein d'organismes qui font des belles actions. Il y a plein de gens qui font des bonnes actions. Mais Dieu ne regarde pas seulement aux actions. Dieu parle le langage du cœur. Est-ce que c'est l'amour qui fait réellement cette action? Est-ce Jésus en toi qui fait les actions que tu entreprends jour après jour? Si je comprends ça, que je suis rien sans l'amour, que je suis rien sans Jésus, ce n'est plus à propos de ce que je fais. À partir de ce moment-là, ce n'est plus à propos de ce que je fais. Ce n'est même pas à propos de mon excellence. Ça ne devient plus à propos de ma performance. Puis arrêtons de mettre de la valeur sur ce qu'on accomplit, mais plutôt sur qui on devient en passant du temps avec Jésus. Qui deviens-tu? Car c'est en passant du temps avec lui que tu vas accomplir de plus grandes choses en passant. C'est en passant du temps avec lui que je vais avoir des bonnes attitudes. Puis c'est en ayant des bonnes attitudes que je vais avoir la promotion. Tout le monde veut la promotion, mais tout le monde n'est pas prêt à mettre le cœur dedans. Moi, ma femme, j'ai une bonne femme en passant. J'ai une très, très bonne femme. Puis ma femme, elle m'endure à même. Pour le meilleur et pour le pire. Elle est bonne pour moi. Puis ma femme le sait quand je n'ai pas passé du temps avec Jésus. Non, mais on va se dire les vraies choses. Des fois, je suis grumpy, comme on dit en anglais, ou je tire la gueule, comme les Français diraient. Bonjour aux Français qui nous regardent en France. Je suis pas comme du monde, comme on dirait au Québec. Tu vois, je suis même pas capable de le dire. Je suis pas du monde. Des fois, ça m'arrive. Ma femme me dit, t'as pas passé de temps avec Jésus là, aujourd'hui. Arrête de faire tout ce que tu fais, puis mets-toi à prier, puis tu vas être du monde. Je vais m'aider avec toi. Ça va être le fun. Pour tout le monde. Puis tu vas voir, hein, la bénédiction de Dieu va toucher après ça tout ce que tu vas entreprendre. Moi, ma pasteur, c'est ma femme. Donc, en techniquement, c'est votre pasteur à vous tous aussi. Non, mais c'est... Des fois, on a besoin de se faire dire les vraies choses. Est-ce que je valorise ma relation avec Dieu? Si on passe du temps avec Jésus, nos vies vont se tourner vers les autres. Pensez-y. En 3 ans, Jésus, sa vie, était simplement de s'investir dans 12 personnes. C'est quelqu'un qui aime. Son but n'était pas de promouvoir son ministère. Son but n'était pas de promouvoir même qu'il était le Fils de Dieu. Quand les gens disaient « Hey, c'est toi le Fils de Dieu », ils disaient « Chut, 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 tais-toi, mon heure n'est pas encore venue. C'est pas encore le moment, là. » Tout ce qu'il a fait, c'est investi dans 12 personnes. Puis le résultat de ça, aujourd'hui, c'est nous. Puis un jour, le résultat de ça, moi, j'ose croire que 80% de la planète Terre, si pas plus, va être amoureux de Jésus. Il va parler de lui tel que je parle de lui ce matin. Parce que c'est ça que Dieu veut faire. Dieu veut démontrer son amour envers toute l'humanité. Parce qu'il nous aime. Si notre mandat, c'est d'aimer Dieu, notre mandat, c'est d'aimer les gens. Si ton mandat, c'est d'aimer Dieu, ton mandat, c'est d'aimer ton prochain. Le problème, c'est que des fois, on reste focalisé à la première étape, le soi-même. Des fois, on reste focalisé sur nous. Puis on pense à nous, puis on pense à notre nombril, puis on pense qu'on est plus important que tout le monde. On s'aime, ou on ne sait pas s'aimer, donc on ne sait pas aimer les autres, puis on ne sait pas aimer Dieu. Puis si c'est ton cas ce matin, ce que tu as à faire, c'est te placer dans une position devant Dieu, ce que tu dis, « Ben Dieu, je n'ai pas m'aimer, viens m'aimer. Viens me démontrer ton amour afin que je puisse être capable de m'aimer et aimer les autres. » Mais là, on ne parle pas de ça. Si t'as... Des fois, on s'aime, puis on pense à nous, puis on devient plus important que toutes les autres situations dans nos vies. Puis à cause de ça, ben, on passe à côté du plan de Dieu. La Bible me dit, Jésus me dit que je suis quelque chose. Lorsque je vis pour Dieu et pour les autres. Je vais le répéter, OK? La Bible te dit ce matin que tu es quelque chose lorsque tu vis pour Dieu et pour les autres, comme si c'était pour toi. Vous savez, le bug, c'est que des fois, on se dit, « Ouais, mais moi, là, j'ai en masse donné. C'est le temps que je pense un petit peu à moi. Ça, je l'ai déjà entendu. En tant que pasteur, tu fais ce job-là un an, tu l'entends. Tu fais 2, fait que j'ai entendu plusieurs fois. Ouais, mais là, c'est bien beau, là. J'ai en masse donné. C'est le temps que je pense un petit peu à moi. OK. Chance que Jésus, il a pas dit ça à quoi? Non, pensons-y. Une chance que Dieu a pas dit, « Hey, c'est le temps que je pense à moi, là, 2 minutes, là. » Je vais mettre mes choses dans les airs, je vais relaxer. Père, oublie ça, l'œuvre de la croix, j'ai pas envie d'avoir mal, sauve-moi. La gloire qu'il reçoit encore sur son trône et qu'on lui donne jour et nuit, c'est à cause qu'il n'a pas fait ça. Il n'a pas dit, Il n'a pas dit non plus, j'ai donné à ma famille jusqu'à 30 ans. Non, mais pensons-y, ça je l'ai déjà dit ici à un moment donné. Jésus, à 17 ans, son père naturel, son père, tu sais, son père sur la terre, Joseph, OK, est décédé. C'est ce que les plus grands théologiens nous disent. Et Jésus, en tant que l'aîné de sa famille, est devenu l'homme de la famille. Et à ce moment-là, Jésus a décidé, pensez-y, à 12 ans, Jésus savait qui il était. On le voit dans le temple en train d'enseigner. Après ça, on le voit prendre une pause, puis on est comme, mais Jésus, puis après ça, on le voit ressortir. Après que la Bible, dans Luc 4, ça nous dit que Jésus grandit en sagesse et en âge et en faveur devant Dieu et les hommes. Après ça, on voit Jésus à 30 ans. Fait qu'il y a comme un gros gap. Puis les théologiens, lorsqu'on étudie la Bible, puis on étudie les lettres, on voit, on sait, on apprend que Jésus, son père, serait mort à l'âge de 17 ans. Et donc, il est devenu l'homme de la famille. Et donc, il s'est donné à sa famille avant de pouvoir même accomplir son propre ministère. Pourtant, il y avait un appel. Il savait qu'il quittait à l'âge de 12 ans. Mais il a fallu que lui-même mette ce projet-là sur pause. Puis Dieu, non ta volonté, mais la... Non, ma volonté, mais la tienne. Je vais vivre pour toi. Et toi, tu me demandes de me concentrer sur la famille. Toi, aujourd'hui, tu me demandes d'être l'homme de la famille. Donc, moi, je trouve ça intéressant parce que je me dis, avant que Jésus puisse se donner pour la terre entière, il s'est donné pour sa mère Marie, pour ses frères, pour ses sœurs. Fait que si Jésus est capable de le faire, ben nous aussi, on est capable de l'entreprendre, ça, cette réalité-là. Est-ce que tu te donnes pour les autres? Après ça, pendant 3 ans, ben, il s'est donné. Il s'est concentré sur 12 personnes qui ont révolutionné le monde après. La Bible nous dit, aime l'Éternel ton Dieu et ton prochain comme toi-même. C'est en s'occupant des autres que tu vas accomplir ta destinée. C'est seulement en t'occupant des autres que tu vas te mettre à opérer dans ta destinée. J'ai 2 points majeurs pour nous. Vivre pour Dieu veut dire d'être intime avec lui. Et vivre pour les autres, ça veut dire d'être intime avec les autres. C'est 2 mandats que Dieu te donne. Si tu ne le savais pas, tu le sais maintenant aujourd'hui. L'un ne vient pas sans l'autre. Et ta destinée, je vais bien le dire, ta destinée extraordinaire ne s'accomplira pas sans ça. Tu peux vivre de belles choses, mais tu ne vivras pas le meilleur si tu n'apprends pas à te donner à Dieu et aux autres. Il y en a bien ici que vous vivez. J'aimerais. Là, il y en a qui disent, ben moi, je vis quand même pour moi, puis ça se passe bien. Je vis quand même des belles choses. Je vis des bonnes choses. Oui, mais le bon est l'ennemi du meilleur. Ma mère m'a toujours dit ça. Depuis que j'étais tout jeune, elle me dit, Sam, ne te satisfais pas du bon. Dieu a le meilleur pour ta vie. Le bon, c'est l'ennemi du meilleur. Est-ce que je parle à des gens qui veulent vivre le meilleur ce matin? Tout devrait naître. En fait, tout naît de l'intimité. Si tu es intime avec Dieu, tu vas devenir intime avec les autres. Et ta destinée, le roulement de l'accomplissement de ta destinée va se faire soudainement. J'ai un exemple pour nous. Tout devrait naître de notre intimité. C'est comme ça pour le bébé. Un bébé naît à cause qu'il y a eu un papa et une maman qui ont été intimes. L'intimité crée la vie, crée une destinée. Il y en a, ici ce matin, vous voulez vivre le bébé sans vivre l'intimité, sans la consécration. On parle d'intimité aussi, on parle pas d'intimité. Bref, en tout cas. Vous avez compris. C'est une image. Un bébé est conçu dans l'intimité. Un bébé même vient dans ce monde dans l'intimité. Écoute, j'ai jamais vu une femme dire, moi, je ne vais pas à l'hôpital là, pour accoucher. Je vais aller au galet de Granby, je vais m'exposer, je vais faire sortir ce bébé-là devant l'aldo parce que ce bébé-là, il est destiné à vendre des souliers. Dieu me l'a dit. Ça va être le meilleur vendeur de souliers que le monde n'aura jamais vu, une grande destinée. Donc, je vais le montrer au monde, ce bébé-là. Okay, ça arrive des fois à des naissances qui est comme... T'es dans l'auto ou sur un balcon. On a déjà entendu une histoire comme ça ici. Mais c'était pas voulu. Habituellement, on vit ces choses-là dans l'intimité. C'est un moment assez intime. Habituellement, il y a une seule autre personne qui est là pour la femme, c'est son mari ou la maman dans certaines circonstances. Puis là, ils sont là, ça va, tu vas y arriver. Lâche pas. Puis il y a même un rituel où la femme doit apprendre à respirer au bon moment, puis pousser au bon moment. Puis le mari, ben il se fait dire, puis s'il fait des cours de préparation, il va se faire dire quoi faire, quoi pas faire pour justement ne pas angoisser sa femme et l'aider à donner naissance dans l'intimité. C'est un beau moment, puis après ça, on voit la vie sortir, puis c'est beau. Mais l'intimité, c'est important. Sans l'intimité, il n'y a pas de vie. Il y en a ici, vous voulez vivre votre destinée extraordinaire sans la consécration à Dieu et envers les hommes. Dieu nous a donné un commandement important. C'est pas à prendre à la légère. Aime l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Sois intime, et après ça, aime ton prochain tel que tu peux t'aimer. Ne t'aime pas avant. Attends, faut que je fasse attention. Tu peux t'aimer, mais aime les autres autant que tu t'aimes. Sois intime. Dans le lieu intime, c'est là qu'on fait le bébé. Et c'est aussi là qu'on donne naissance. Jésus a changé le monde en étant intime avec 12. Il n'était pas juste intime avec eux le dimanche matin, tel que nous, on peut vivre des fois l'Église. Il était intime avec eux jour et nuit. Il s'occupait d'eux. Il y avait un budget pour leur bouffe. Il s'occupait réellement d'eux. Ça dit que Jean se collait sur lui pour entendre son cœur battre. Jean l'aimait, Jean était intime. Jean, on le surnomme bien-aimé. Tu es le bien-aimé de Dieu. Tu es appelé à être dans une position intime avec ton Dieu. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Tantôt, j'ai utilisé l'exemple de la femme qui accouche. On se dit, c'est normal, on n'accouchera pas en public. Oui, mais des fois, le problème, c'est qu'on essaye de donner naissance à tous nos projets publiquement. Des fois, on essaye de vivre des choses qui sont appelées intimes devant les hommes. Mais Dieu veut se manifester lorsque qu'on est réellement... Lorsqu'on a un cœur disposé à entendre sa voix. Puis des fois, il faut éliminer les voix étrangères du monde pour justement donner naissance à notre destinée. Tantôt, tu sais, j'ai dit, j'ai jamais vu ça, une femme aller au Galerie Glambé faire ça. Une chance, tant mieux. Ce serait bizarre. Tu aurais tout le monde qui regarderait, puis tout le monde ferait, oh my gosh, pas besoin de voir ça aujourd'hui. Fais sortir ton bébé dans l'intimité. Fais sortir ton projet dans l'intimité avec Dieu. Sois intime avec lui. Puis après ça, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas à t'inquiéter pour le marketing, pour le truc, pour le ci, pour le ça. Ton bébé va être tellement cute que tu vas te promener. Puis partout où tu vas te promener, les gens vont s'arrêter. Ils vont dire, oh, il est tombé. Il y en a-tu qui ont déjà eu un bébé en passant? Si je parle à des parents, vous allez me comprendre là, ce matin, OK? Tu as un bébé là, en bas de genre 6 mois, puis on dirait que tu es arrêté à tous les coins de rue par plein de monde que tu ne connais pas. Puis la première chose que les gens que tu ne connais pas veulent faire, je sais pas où ils ont pris ce habit-là, cette habitude-là, mais ils se mettent à toucher au visage de ton bébé. Ils disent, oh, you know, mais beau, je te connais pas, watch out! Je peux-tu le prendre? Pourquoi? Il est beau, mais il n'est pas à toi. Est-ce que,
que moi, quand que je te rencontre dans la vie puis je te trouve beau ou belle, je me mets-tu à toucher à ton visage? Mais touche pas au visage de mon bébé. Je sais pas à quelle chose tes mains ont touché. Est-ce que tu t'es lavé les mains après d'avoir été aux toilettes? Non, mais pensez-y. Vous allez le vivre bientôt. C'est que tu sors un bébé dans ce monde, puis tout à coup, ben, oh, tout le monde se permet de traiter ce bébé comme si c'était le leur. Mon point, celui-ci, c'est vis l'intimité. Vis ton truc dans l'intimité. Sois intime avec Dieu. Ta destinée va attirer les gens. Tout doit venir de l'intimité. Ça, les gens, la faveur est sur toi, la faveur de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as choisi d'être intime. C'est comme ça dans le monde naturel. On donne naissance à un bébé dans l'intimité. T'es pas obligé d'aller au Galégram B. Les gens vont le remarquer, les gens vont te donner des compliments. C'est la même chose avec ta destinée. Vis quelque chose avec Dieu. Sois intime avec Dieu. Aime l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de ta pensée. Aime ton prochain comme soi-même. Et watch out. Watch out. Regarde ce qui va t'arriver. Les portes vont s'ouvrir. Pas des bonnes portes, mais des portes extraordinaires. Si tu vis pour Dieu, tu vis pour les autres. Sois le meilleur dans l'intimité. Et tu auras la faveur et la bénédiction de Dieu. Après ça, si on vit pour les autres, on va voir des grandes choses s'arriver. Je ne sais pas si vous y aviez déjà pensé, mais David, il est reconnu pour quelque chose, quelques belles choses, mais une des choses qui est vraiment reconnue, une des histoires qu'on entend le plus parler, c'est celle de David puis Goliath. David a tué Goliath. Je l'aime, cette histoire-là. Je la trouve vraiment formidable. Puis, saviez-vous que Goliath, ce n'était pas son géant à tuer? Techniquement, ce n'était pas à lui de tuer Goliath. C'était le géant d'un autre. C'était le géant de Saül. C'est lui. La raison pourquoi il l'a tué, c'est qu'il avait foi en Dieu, il est intime avec Dieu, puis il a vu Goliath, puis il a dit, « Hey guys, vous êtes dans mes caves, Dieu veut le tuer, ça fait longtemps, qu'est-ce que vous avez fait, pourquoi vous ne l'avez pas battu? Il est appelé à tomber, là, c'est Dieu qu'on sert, peut faire tomber n'importe quel géant, let's go, bon, ben regarde, il n'y a personne, vous êtes tous peureux, ben, ok, ben moi je le fais, je suis le plus jeune ici, vous êtes donc même pouilleux, bon, je crois en Dieu, j'ai la foi. » Pourquoi il avait la foi? Parce qu'il était intime avec Dieu. Ça, on le sait comment, parce qu'on connaît son historique, ses psaumes, il était dans le champ. Avant que tout ça ait commencé, puis il disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Il se dit, ce gars-là, il peut être l'ombre de la vallée de la mort, mais je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. Fait qu'il se retrouve, il dit, ben regardez, vous n'avez pas compris la grandeur de votre Dieu, ben moi, je vais sauter devant ce géant, puis je vais l'abattre. Mais pourtant, c'était pas son géant. Ce géant-là n'avait rien à faire avec David. C'était le géant de qui? De Saül. Ce géant-là s'en prenait à l'armée de Saül. Les gens se disent, ouais, pourquoi je devrais vivre pour les autres? Parce que c'est la façon que tu vas accomplir ta destinée. C'est en t'occupant des fois d'un problème dans la vie de ton prochain que tu t'es soudainement élevé dans le palais. Il est arrivé avec sa fronde, son onction. Il est arrivé. Goliath tombe. Il prend après ça l'épée de Goliath. Il tranche la tête. Et après ça, les gens se sont mis à, justement, ben, glorifier Dieu. Puis à dire, c'est grâce à David. Puis se sont mis à élever David, puis à un tel point que ça l'a fait, dans le fond, ben ça l'a amené une rivalité entre lui et Saül. Puis on sait après ça, David puis ses armées, puis vous connaissez un petit peu l'histoire. Mon but n'est pas de nous rentrer dans cette histoire-là à fond. Mais des fois, C'est en entreprenant une situation que Dieu a mis devant toi qui n'a rien à faire avec toi, que tu vas te positionner pour accomplir ta destinée. Imaginez David, il a dit, oh, ben, regardez, moi j'ai déjà mes... Je protège déjà les brebis de mon père. J'ai tué un ours la semaine passée, puis un lion, puis il faudrait peut-être que je retourne à la maison. Je ne retourne pas à la maison, il y en a peut-être un, puis celui qui me remplace à un moment, il est moins bon que moi. Fait que, ben regarde, vous allez trouver quelqu'un à un moment donné, puis ciao, je vais aller m'occuper des lions de mon père. Pas des lions, des brebis. Je vais aller m'occuper des brebis de mon père, je vais aller tuer un lion ou deux. S'il avait fait ça, mais des fois, c'est ça qu'on fait en passant. Hein? Des fois, on est tellement... C'est pour ça que je dis, aime ton prochain comme soi-même. C'est que t'es appelé à aimer le projet de ton prochain, des fois, tel que toi, tu t'aimes. Tel que toi, t'aimes tes projets. Tel que toi, t'as une destinée. Des fois, la porte de Dieu pour ta vie va seulement s'ouvrir à partir du moment que tu aides les autres. À partir du moment que t'aimes les autres. J'aimerais te dire, watch out! Ça va être extraordinaire. Ça va te faire passer d'un gars qui passe du temps dans les champs et tu vas te mettre à passer du temps dans les palais. On aspire tous à vivre les palais. Puis là, je parle en parabole, je parle en images. Il y en a-tu qui veulent vivre le meilleur? J'ai posé la question tout à l'heure. Tout le monde a levé sa main. Tout le monde veut vivre le meilleur. Ouais, mais c'est en vivant l'humilité. C'est en vivant l'intimité. L'humilité précède la gloire. L'intimité sera pour toi une faveur qui va te faire vivre tous les projets extraordinaires que Dieu a placés sur ton chemin. Juste un instant. C'est en se donnant, c'est en vivant pour les autres. Je vais terminer avec ceci. J'aimerais peut-être parler à des hommes aussi ce matin. Parce que des fois, on peut se perdre dans nos projets. Les femmes aussi. Mais j'étais allé à une conférence dernièrement qui était extraordinaire. Ça s'appelait Kingdom Wealth. C'était à Bromont avec l'Église a vécu. Puis il y avait invité un prédicateur, son nom c'est Jedediah Tam, un homme de puissance, un prophète qui a partagé la parole. Puis dans les débuts de son ministère, il s'est mis à voir Dieu lui ouvrir des portes extraordinaires. Puis il s'est ramassé à prophétiser devant des gens très, très riches de ce monde. Puis à même parler à des rois de ce monde. Puis il y a plein de choses. Puis c'est un gars qui vient du Singapour. Puis vraiment, il y a un ministère extraordinaire. Puis pendant de nombreuses années, il a vécu comme des hautes sphères d'influence. Puis, un jour, il s'est marié. Puis, dans tout ça, tout à coup, il n'y avait plus la faveur de Dieu. Puis là, il dit, « Femme, t'es pas une faveur pour moi? » Non, c'est une joke. C'est des blagues. Puis là, il a comme remarqué que ça n'allait plus aussi bien. Puis il dit, « Comment ça, les portes se ferment dans ma vie? » Puis là, il s'est mis à limite prier puis intercéder. Puis il dit, « Je m'en prenais à tous les démons de ce monde. » Puis j'étais comme, « Là, Dieu, tu vas rétablir ta faveur sur ma vie. Tu vas réouvrir les portes. » Puis il en venait pas parce qu'on dirait que c'est comme tout à coup flanché. Puis ça a duré un an jusqu'à temps qu'il soit vraiment attentif à la voix de Dieu. Puis Dieu lui a dit, « Tu ne respectes pas ta faveur. » Là, il est comme, qu'est-ce que tu veux dire, je ne respecte pas ma faveur? Puis dans la parole, ça dit ceci, dans Proverbe 18, verset 22, ça dit, « Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, a trouvé la faveur. C'est une faveur qu'il a reçue de l'Éternel. » Si tu veux voir les portes réouvrir, respecte ta faveur. Sois intime avec Dieu. Mais si tu es intime avec Dieu, Dieu va t'amener à être intime avec les gens que Dieu a placés dans ta vie. Puis des fois, on néglige nos relations. On néglige ce qui est favorable pour nous. Moi, j'ai trouvé ça bon. J'avais besoin de l'entendre. Parce que des fois, on est dans nos projets, on est dans notre ministère, puis on opère, mais on oublie ce qui nous donne la faveur. Aime l'Éternel ton Dieu, aime ton prochain. La faveur de Dieu, sa bénédiction, elle est là. On va l'amener un petit peu plus loin. Dans le psaume 127, ça dit que tes enfants sont une bénédiction, sont comme une flèche envoyée qui frappera la cible. C'est une flèche dans ton carquois. C'est une bénédiction. Il y en a. Là, je parle aux gens mariés, aux gens qui ont des enfants, les gens, tu sais, mais sauf élevé, peu importe votre étape de votre vie, on parle de prioriser les bonnes choses, mettre les choses aux bonnes places. Tu cherches la bénédiction de Dieu, mais tu ne l'as pas. Est-ce que tu valorises tes enfants? Valorises-tu ce que Dieu a placé dans ta vie? Valorises-tu les vraies bénédictions? Parce que les vraies bénédictions et la vraie faveur de Dieu, elle est relationnelle. Pourquoi? Parce qu'on sert à un Dieu relationnel. Dieu n'est pas tant concerné par tes projets, par tes actions. Parce que si tu fais tout ça, puis que le cœur n'est pas à bonne place, ben t'es comme les cymbales qui retentissent. On est appelé à avoir un cœur disposé, qui est amoureux, qui a été touché, transformé par l'amour véritable de Jésus-Christ. On peut faire bien des choses, puis bien des bonnes choses, mais si ces choses-là ne naissent pas de notre intimité, ça ne dit pas que ces choses-là ne sont pas bonnes, ça dit que nous, ben ça vaut, on vaut rien. Dieu cherche ton cœur ce matin. J'aimerais réinviter l'équipe de louanges. Puis on va vraiment y chanter « Jésus, nous t'aimons » sans être cassé par les belles cymbales. Mais Dieu cherche une église qui est amoureuse, qui est amoureuse. Est-ce que vous voulez vous lever avec moi? Donnez-lui votre cœur ce matin. Donnez-lui votre cœur. Pendant que l'équipe de louange se prépare à nous diriger un dernier moment dans la louange, j'aimerais vraiment déclarer ces versets sur notre Église. J'aimerais déclarer ces versets-là sur toi. J'aimerais ça que tu sois attentif ce matin. Parce que Dieu te cherche. Si tu te positionnes à la bonne place, et cette place-là, c'est dans son cœur, tu vas vivre des plus grandes choses. Tu vas vivre des choses extraordinaires. Isaïe 54, versets 1 à 8, ça dit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant, éclate de joie et pousse des cris de triomphe. Toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. En effet, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée, dit l'Éternel. Agrandis, Dieu te parle ce matin, agrandis l'espace de ta tente, qu'on déplie les toiles qui te servent d'habitation. N'en retiens rien, allonge tes cordages et renforce tes piquets. En effet, tu déborderas à droite et à gauche. Ta descendance envahira la terre. N'aie pas peur, car tu ne seras pas couverte de honte. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonorée. Au contraire, tu oublieras la honte de ton adolescence. Et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ta période de veuvage. En effet, ton époux
C'est celui qui t'a fait. T'es marié à Jésus ce matin. Jésus t'aime. Et son nom, c'est l'Éternel, le maître de l'univers, celui qui te rachète. Jésus te rachète ce matin. C'est le Saint d'Israël. Et on l'appelle Dieu de toute la terre. Oui, l'Éternel t'a rappelé. Comme une femme abandonnée, à l'esprit abattu, comme une femme des jeunes années qu'on a rejetées, dit ton Dieu. Pendant un court moment, je t'avais abandonné, mais c'est avec une grande compassion que je t'accueillerai. Dans un débordement de colère, je m'étais en un instant caché à toi. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit l'Éternel, celui qui te rachète. Maintenant, ça, ces paroles-là ont été prononcées par le prophète Isaïe. Plusieurs années avant Jésus. Et nous, on sait qu'on vit l'accomplissement de cette parole-là. Que Jésus est venu en tant que l'époux. Il nous appelle à être son épouse. Il a tout accompli. Son sang t'a couvert. Il t'a déjà racheté. Tu es saint. Tu es sainte en Jésus. Sans rien faire. Tout ce que Dieu cherche ce matin, c'est ton cœur. Lâche la performance. Lâche tes efforts dans le naturel. Et mets-toi à mettre un petit peu plus d'efforts dans le relationnel. Et tu verras la bénédiction de ton Dieu. Tu verras la faveur se rétablir sur ta vie. Est-ce que vous voulez lever vos mains avec moi? Si vous sentez à l'aise, faites juste lever les mains en vous. Répétez après moi, Jésus, je viens à toi tel que je suis, sans rien à moi. J'ai besoin de ton sang. Merci pour ton sang qui a coulé sur ma vie. Ça aurait dû être moi qui paye un prix pour mes péchés. Mais tu m'as racheté. Tu m'as justifié. Tu m'as rendu blanc comme la neige. T'as enlevé mes saletés. Puis ce matin, à cause de cela, je veux donner toute la gloire et l'honneur. Et je veux te dire à quel point je t'aime. Je veux te redonner mon cœur. Prends-le entièrement. Mes yeux sont fixés sur toi. Jusqu'à la fin de mes jours. Louons-le.